création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. Elle peint, mais trouve que la peinture est un milieu assez machiste. C'est un médium sale, lent et compliqué, qui a en plus perdu de sa gloire, détrôné par la vidéo ou les installations. Elle dit « Si j'éprouve beaucoup de plaisir à toucher la matière et mélanger les couleurs, il est difficile de rivaliser avec les hommes en termes de puissance physique nécessaire pour maîtriser ce médium, alors il faut biaiser, en faire moins, mais de façon plus pertinente. » Ce soir, elle compose, avec sa copine, l'araignée. Elle nous entraîne dans des voyages éphémères, avant d'évoquer avec Marc Vaudet les ressorts de son théâtre sonore. En partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques, Parking, Valérie Favre, Christine Robert, Atelier de création radiophonique ACR.
Je suis le trou. Qu'est-ce qui a fait le malheur de Phyllis ? Sinon l'isolement dans les forêts. La cause de sa mort est indiscutable. Elle n'avait pas de compagne. Elle allait, les cheveux flottants, comme va d'habitude la troupe barbare, qui tous les 3 ans célèbre le culte de Bacchus Sédonien. Tantôt, elle promenait ses regards sur la mer immense, le plus loin possible. Tantôt, fatiguée, elle se couchait sur la grève sablonneuse.
Fuir la solitude. Preuve par l'exemple de Phyllis.
Salut. Ça fait longtemps.
Longtemps?
Longtemps que je t'ai pas vu faire. Ta copine est toujours là?
Of course.
Ici, c'est quand même pas idéal pour voir avec les yeux fermés.
Pose ton balai. T'as toujours prévu de partir au bord de la mer?
Oui, j'aimerais bien.
Depuis hier, je m'appelle de nouveau Billy. J'ai 1000 ans de spectacle derrière moi. 1000 ans que Billy sait et devine depuis les chapiteaux du sous-sol. Je vais te montrer. Ici, c'est Billy qui parle. Et là, c'est moi.
Est-ce bien moi qui vous voudriez parler ? Oui, je crois que c'est vous. Mais est-ce encore moi, lorsque vous ne voulez plus me parler ? Cela dépend de vous. Il faut tenir bon. Il ne pouvait pas l'interroger. Est-ce qu'elle comprenait cela ? Oui, elle le savait. C'était comme une interdiction. Entre eux, quelque chose avait déjà été dit par avance, dont il devait tenir compte. Toujours en moi, et comme en avant de moi, quelque chose est là, qui jette son ombre sur ce que je voudrais vous dire, et au moment où je vous le dis.
Viens, on va célébrer. Viens, on va célébrer avec ma copine. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne brosses pas les sols ?
Ben, je voyage.
Une lance. Une bonne lune.
Une sorcière dans la maison ?
Oui,
Chacune porte un présage. Ce sont elles qui donnent sens à la vie des hommes.
Je vais les installer maintenant au-dessus de cette grille. C'est une des bouches d'évacuation. L'un des dortoirs de ma copine. Elle viendra. Billy sait lire dans ce lieu souterrain sans racines. Et Billy te fera voyager. Ma copine sortira. Elle sort toujours de cette bouche. Billy, répète Billy les mots magiques. Prédiction, tu dors ou tu sors? Déjà? Tu n'as pas besoin de t'engager ou bien?
Voici qui sort.
Un voyage lointain. Ne bouge pas. Tu voyageras.
Allez-y. Voilà, là on est sur le toit.
Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement. Se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute, qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable.
Donc vous êtes dans la coupole. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez le ciel la nuit, quand vous regardez, contemplez le ciel la nuit, vous voyez les étoiles, on a un sentiment d'instantanéité. Et pourtant c'est un faux instantané. Toutes ces lumières arrivent simultanément dans votre rétine, mais la lumière de l'étoile de gauche est partie de l'étoile il y a 100 ans, l'autre il y a 1000 ans, l'autre 4 ans, etc. Donc il y a des temporalités différentes.
Les découvertes synchrones indépendantes de Galilée, de Simon Marius de Piazzi, de Le Verrier, d'Herschel, de Gall, les systématisations tentées par Bode et Kepler, sur les cubes des distances et les carrés des durées de révolution. La compressibilité presque infinie des comètes hirsutes et leur vaste orbite elliptique, sortante et rentrante, de périhélie à aphélie, l'origine sidérale des pierres météoriques, les inondations libyennes sur Mars, aux environs de la naissance du plus jeune des astrocopistes, la réapparition mensuelle connue sous le nom de Nouvelle Lune, portant la vieille lune dans ses bras.
Si nous étions dans un système qui était déjà mort, ça pourrait aller, ça?
Non.
C'est quoi?
L'influence prétendue des corps célestes sur les corps humains, l'apparition d'une étoile, première grandeur, d'un éclat extraordinaire dominant de jour comme de nuit un nouveau soleil lumineux créé par la collision et l'amalgamation dans l'incandescence de deux ex-soleils non lumineux autour de la période de la naissance de William Shakespeare.
Nous sommes en train de parler. Il y a de la lumière qui envoie qui transmet notre image. Quelqu'un très loin là pourrait nous voir. Donc il y a de la lumière qui part et qui envoie nos images. Nos images, cette scène-là, est transmise dans l'espace.
Au-dessus de Delta, dans la constellation allongée, jamais couchante, de Cassiopée, et d'une étoile, deuxième grandeur, d'origine semblable, mais d'un éclat moindre, qui était apparue dans la constellation de Corona Septentrionalis et avait disparu autour de la période de la naissance de Léopold Bloom.
On pourrait très bien imaginer qu'une autre civilisation capte ces images dans 100 000 ans et donc revoit cette scène 100 000 ans plus tard, donc depuis nous aurions disparu complètement.
Et d'autres étoiles, d'origine probablement semblable, qui étaient effectivement ou probablement apparues dans la constellation d'Andromède et en avaient disparu autour de la période de la naissance de Stéphane Dédalus et étaient apparues dans la constellation de l'Aurige et en avait disparu quelques années après la naissance et la mort de Rudolf Bloom, Jr. Il était apparu dans d'autres constellations et en avait disparu quelques années avant ou après la naissance ou la mort d'autres personnes.
Et aujourd'hui, on sait que la Terre fait partie d'un Soleil qui lui-même est une étoile tout à fait ordinaire par rapport à d'autres, qui en a des centaines de milliards, dans une voie lactée qui est une galaxie tout à fait ordinaire vis-à-vis de centaines de milliards de galaxies qui existent. Et on est même en train de s'interroger sur l'unicité de notre univers. Peut-être qu'il y a d'autres univers parallèles, séparés, qui vont naître ou disparaître, etc. On est dans la spéculation, parce que c'est pas parce que c'est possible que ça existe vraiment. Hein, donc on est obligé de discuter. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Mais tant qu'on l'a pas fait, on peut pas affirmer avec certitude, c'est normal. Bon. Donc c'est vrai que il y a peut-être d'autres univers parallèles, il y a peut-être la vie dans ces univers parallèles, il y a peut-être aussi des univers parallèles dans lesquels les lois de la nature sont pas les mêmes qu'ici.
Azriel, Gabriel, Goniel, Agiviel, les anges lunaires, Ondiel, Amichiel, et les ténèbres de Dieu, Dariel, Shachaliel, les lions, Shachal, Amantiel, Arbiel, Aragatiel, c'était peut-être le psychologue de Dieu, Isariel, Adariel, Adriel, le splendeur, Kiriel, Kir, c'est le mur, Rekiel, vide, Rek, c'est le vide, Tagariel, défi,
La révolte de Samaël. A. Certains disent que le serpent de l'Éden était Satan déguisé, c'est-à-dire l'archange Samaël. Il se révolta le sixième jour, poussé par une jalousie débordante envers Adam, que Dieu avait ordonné à toutes les milices célestes d'adorer. L'archange Michel se soumit sans attendre, mais Samaël dit « Je n'adorerai aucun être inférieur ». Quand Adam a été créé, j'avais, moi, déjà atteint la perfection. Qu'il m'adore plutôt, lui. Les anges de Samaël furent d'accord, et Michel les prévint. Prenez garde à la colère de Dieu. Samaël répliqua, s'il se met en colère, j'installerai un trône au-dessus des étoiles, et je me proclamerai moi-même très haut. Alors Michel précipita Samuel du ciel sur la terre, où il n'en continue pas moins de conspirer contre la volonté de Dieu.
Une crampe ? Trop loin ? Est-ce que tu tentes de penser l'impossible ? Et tu n'y arrives pas. Sous cet éclairage, tu ressembles à un ange déchu. Prédiction, tu dors ou tu sors ?
Mouches et grillons, et le bruit des autobus, et ma stupide barbe. Mais qu'est-ce que la magie ? Y a-t-il de la tristesse dans la magie ? La magie était l'une de mes créations Boy Scout. Suis-je responsable, moi qui suis raté ? La magie peut-elle être menacée ? Oui, c'est le seul univers dans lequel la magie est menacée, en écrivant « Défoncé ».
Prédiction, tu dors ou tu sors ? L'araignée a déplacé la baguette la plus longue. Un visiteur dans votre maison. Le visiteur, c'est comme d'habitude, ma copine l'araignée. Toi, tu vas te retrouver dans le village où est construite la maison.
Avenue. Passage, rue, ruelle, impasse, allée, chemin, stade, café, gare, bibliothèque. Musée, tunnel, pont, place, jardin, cimetière. Sentier, tour, berge, palais, île.
Attention au départ. Oui, jeunesse.
Tu vas me raconter un rêve demain ?
Demain ? Ouais, j'ai toujours des rêves très compliqués.
Gesetze, polizeiliche Maßnahmen, philosophische Lehrsätze und so weiter.
Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann. B. Das Dispositiv hat immer eine konkrete strategische Funktion und ist immer in ein Machtverhältnis eingeschrieben. C. Als solches geht es aus einer Verschränkung von Macht- und Wissensverhältnissen hervor.
Rue des Maisons Jaunes.
Direction Morat.
Chemin du Globe. Passage de l'Écluse. Rue de l'Université.
S'envoler.
Boulangerie.
Grimper.
Bois Gentil.
S'arrêter.
Place de l'Étoile Vide. Impasse des Autres. Rue de la Petite Industrie.
Stationner.
Place Rimbaud.
Monter.
Jardin Anglais. Rue de l'Ambre.
Dévaler.
Pont du Cygne. L'île au Musée. La ferme du Docteur Lichty.
Courir.
Centre culturel du Pommier, café-restaurant de l'Univers,
flâner,
tunnel des Pas-Perdus,
sautiller,
ruelle Henri Matisse,
stopper,
avenue du Solstice d'été,
croiser,
centre commercial, rue de Champrévert, rue du Château, direction la vue des Alpes,
s'asseoir,
le refuge des hommes taupes,
zigzaguer,
place des Trois Sapins, direction Berne,
s'envoler.
Thank you. Bonjour. Et le plat du jour, c'est quoi?
Le plat du jour, on est sur fraîcheur d'endives. Des endives avec du fromage frais aux herbes et des copeaux de jambon de pays. Avec en plat des lasagnes maison. Et en dessert, un farboton, une tarte abricot. Voilà.
Rue. Ruelle. Impasse.
A magic universe. Flies and crickets and the sounds of buses and my stupid beard. But what's magic? Is there sorrow in magic? Is magic one of my Boy Scout creations? Am I responsible? I, with my flop? Could threat happen to magic? Yes, this is the one universe in which is threat to magic. By writing while high.
Allez, chemin, tunnel, pont, sentier, tour, berge, palais, jardin, cimetière. J'étais à tirer la porte, j'avais défait le verrou, quand le bruit d'un malheur domestique me frappe les oreilles. Saisi de frayeur, je m'appuie sur mes servantes et leur tombe dans les bras. Mais quelle que soit la nouvelle, répétez-la. Je l'écouterai. Je ne suis pas novice en malheur. Le messager. Chère maîtresse, je dirai ce dont je fus témoin. Je n'omettrai rien de la vérité. Vais-je te tranquilliser pour qu'ensuite t'apparaisse que j'ai menti? La vérité est plus directe. J'ai guidé ton époux jusqu'au bout de la plaine, où, déchiré sans pitié par les chiens, gisait encore le corps de Polynice. Là, nous prions la déesse des chemins et Pluton de contenir par bonté leur colère. Nous lavons le corps d'ablution sainte. Nous brûlons ses restes dans des branches fraîches. Nous lui élevons un tertre avec la terre natale. Puis nous allons vers l'antre de pierre de la jeune fille. La chambre nuptiale de l'Hadès.
Tu es en train de revenir de l'Hadès?
Non.
Sous la terre, c'est plein de culs, plein de cons, plein de bouches et de bites. Sous la terre, c'est plein de foutre, plein de salive gouttant dans les ruisseaux. C'est plein de merde sous la terre, coulant dans les rivières sous les villes, plein d'urine flottant sous la terre, plein de morve dans les narines industrielles de la terre, de sueur sous les bras d'acier de la terre, de sang giclant du sein de la terre. Lac infini de larmes, océan de vomi s'engouffrant entre les hémisphères flottant vers les sargasses, vieux chiffon huileux, liquide de frein, essence humaine. Sous la terre, c'est plein de douleurs, cuisses fracturées, napalm brûlant dans des cheveux noirs, phosphore dévorant les coudes jusqu'à l'os, insecticides polluant les marais, poupées en plastique flottant sur l'Atlantique, soldats de plomb engorgeant le Pacifique, bombardiers B-52 étouffant l'air de la jungle sous les traînées des réacteurs et l'éclat des fusées.
bourdons robots zigzagant au-dessus des terrasses des rizières, lâchant grenades à billes. Grappes de balles pour trouer les chairs, shrapnel et bombes incendiaires sur les toits de chaume et les buffles. Éclats d'obus perforant les huttes des villageois, tranchées bourrées de poudre d'explosifs asphyxiants. Sous la terre, c'est plein de crânes fracassés, pieds broyés, yeux arrachés, doigts amputés, mâchoires tailladées. Dysenterie, millions de sinistrés, cœurs torturés, âmes vides.
Billy, c'est moi. Et l'autre, c'est aussi moi. 8e étage au-dessous de la mer. L'araignée, c'est mon amie. Elle est plus intelligente que tu penses. C'est elle qui fait le don des présages. Billy peut les voir. Lui, Billy peut les voir. Tu vois celle-ci? C'en est une bicolore. C'est la rencontre. Elle présage les amours, les grands et les petits. Mais pas seulement. C'est du super couplage. Deux couleurs, deux. Attends, ne pars pas. Juste que je te donne quelques exemples en passant de ce que l'araignée a provoqué. Écoute.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're
John Cage et Mercy Cunningham, Romeo et Juliette, Héloïse et Abélard, Thelma et Louise, Robert et Sonia Delaunay, Antoine et Cléopâtre, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, Ulysse et Pénélope, Rimbaud et Verlaine, John Lennon et Yoko Ono, Gilbert et George, Eva et Adèle, Sailor et Lula, Tristan et Iseult. On dit, vous dites Iseult ou Iseult?
Zut!
Ça dépend, il y a des gens qui disent.
Ah, eux,
c'est Zut. Tristan et Iseult.
Ah, c'est marrant, j'entends.
Iseult? Tristan et Iseult. Joseph et Marie. Christo et Jeanne-Claude. Zeus et Hera. Pierre et Marie Curie. Sartre et de Beauvoir. Faust et Marguerite. Adam et Ève. Georges et Sylvie Bataille. Oxygène et gaz carbonique. Passé et futur, le litre et le mètre, la lune et le soleil, la terre et la lune, le centaure et la sirène.
Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Si je m'allonge simplement au bord de la mer. C'est dans la fiction que je vis. J'ai quitté le réel. De toute façon, pour ce que j'y fais.
Dans son ouvrage intitulé « La crise du monde moderne », René Guénon démontre avec un luxe terrifiant de détails à quel point il est évident que nous nous trouvons dans cette dernière période dite du Kali Yuga, au terme de laquelle le monde doit s'enfoncer dans la nuit. Le monde moderne, écrit-il, ira-t-il jusqu'au bas de cette pente fatale, ou bien, comme il est arrivé à la décadence du monde gréco-latin, un nouveau redressement se produira-t-il cette fois encore, avant que le monde n'ait atteint le fond de l'abîme où il est entraîné ? Il semble bien qu'un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible, et que, d'après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons entrés vraiment dans la phase finale du Kali Yuga. Dans la période la plus sombre de cet âge sombre, dans cet état de dissolution dont il n'est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n'est plus un simple redressement qui est nécessaire, mais une rénovation totale. Il nous reste donc peu de chances de nous en sortir. Si, néanmoins, nous voulons nous extraire de ce mouvement dans lequel nous sommes pris, il nous faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par réviser notre manière de considérer l'amour.
Tu verras bien. C'est juste un échange d'emploi du temps. Encore un tour. Un beau rêve. L'araignée a bousculé le rêve. Elle file entre les voitures, elle s'en va, se souvenir de nos rêves. Elle raconte les rêves des autres.
Mon rêve. Ik was met jou in een Hilton-kamer en we zouden naar een receptie gaan, maar daar had ik eigenlijk niet zo heel veel trek in. Terwijl jij je klaarmaakte om te vertrekken, draaide ik me om en klom ik uit het raam. En ik klom naar beneden, ongeveer 5 meter. En bevond me plotseling in een soort Chinatown.
Je suis dans un pays, j'arrive pas à déterminer, je sais pas où c'est vraiment. Je me retrouve à discuter avec un très vieux marin, avec les traits tout abîmés par le sel, dans une bibliothèque super sombre. Et on parle d'une plaque primitive dont j'ai...
Werkstatt von meinem Vater, in der Töpferwerkstatt. Aber der Raum war genau der Schnitt von der Werkstatt von meinem Vater, so, aber total leer. Also auch nur eine Treppe. So, und
et on va tous les trois dans un bar genre pub qui jouxte la bibliothèque.
Reduziert auf die Flächen von den Wänden und dem Boden und die Treppe in den nächsten Raum. Und was ich mich da erinnere, ist, dass ich...
Ich blieb ungefähr 30 Meter nach links.
Einmal war noch davor eine Freundin von mir aus dem Kindergarten zu sehen.
Und links auch den
Opening. Sie war auch sehr so abstrakt. Die Figur war schon...
Er liegt durch eine lange, dunkle Gang. Und ich kam in eine enorme Räume, eine Art von Showroom.
Albträume, die erste...
Blick wird getroffen durch einen Box.
Ich sah mich aus der Vogelperspektive. Immer wieder wurde ich aus verschiedenen Körperteilen
getrennt.
Ich habe mir dabei zugesehen. Es gab verschiedene Personen, aber meistens auch unkenntliche Personen. Viel wurde die Identität nicht gezeigt. War es ein Mann, war es eine Frau? Körperteile wurden abgetrennt. Ich musste zusehen. Und bin in der Dunkelheit gewesen, kam aus der Dunkelheit wieder raus. Und teilweise war es auch so, dass...
Chinoise à moitié gitane.
Ja, das waren so Sachen, die gingen genau einen Monat, kam aber nie wieder. Und das ist etwas, was mich auch vieles gelehrt hat über Dunkelheit und Einsamkeit, aber auch.
Früher im Kindergarten, da hatten wir eine kleine Turnhalle. Das war so ein Raum neben unseren eigentlichen Spielräumen. Und da gab es auch zwei große Weichbodenmatten.
Et à un moment, elle nous laisse.
Immer einen Raum.
Y a une autre
so einmal die Woche in etwa. Das zwei große Riesen.
Et juste quand elle commence à nous parler, elle se fait descendre, elle se fait tuer. C'est une ambiance assez glauque. On reste dans ces ruines.
Einmal war noch davor eine Freundin von mir aus der Schule oder Kindergarten zu sehen. Und sie war auch sehr so abstrakt. Die Figur war schon so, ich weiß, dass sie eine Jacke anhatte, die ich von ihr hatte. Das kann ich mich genau erinnern. Und was sehr seltsam war, es gab so eine Situation, wie sie irgendwie, oder wir hatten, es gab einen Spiegel da, wir haben in diesen Spiegel geguckt. Und sie hatte aber auch kein Gesicht, sondern irgendwie war das Gesicht auch nur so ein Teil.
Als anglais, et là, il y a une énorme table remplie de gâteaux, un peu comme une kermesse d'école. Et là, je me concentre sur le fait de compter tous les gâteaux.
Kopf, aber irgendwie
et je compte, je compte. Et
Augen irgendwie, so fast wie so eine Figur,
die
nicht verbunden ist aus einzelnen Teilen, sondern also nicht zusammenhängend alles, sondern so, so fragmentierte Personen.
Oh, but it's better not. It's a terrible dream. C'est mon rêve. Et c'est mon rêve de, d'une forme monstrueuse. J'ai peur.
Und ich hatte vor denen auch ein bisschen Angst. Ich habe mich da auch nicht reingetraut, weil ich wusste, die liegen da. Aber die haben auch nichts gemacht. Die haben sich miteinander unterhalten. Und all die anderen Kinder, für die war das kein Problem. Die sind so um die herumgesprungen und haben so neben denen gespielt und alles Mögliche. Und ich habe dann meine Kindergärtnerin auch gefragt, was die denn hier wollen. Und die Kindergärtnerin meinte, ja, die ruhen sich hier nur aus. Und geh doch mal rein. Aber ich habe mich nicht getraut, in dem Traum zu den Riesen zu gehen. Und dann am Ende, nachdem sie mich fast überredet hatte, da mal reinzugehen, habe ich mich dann am
also,
Ende
mal an, des
Traums, der immer wieder gekommen ist, mal getraut. Bin reingegangen und dann war leider mein Traum zu Ende.
Und terwijl ze dat doet, terwijl ze me een uitdagende blik geeft, schudt ze haar lijf en haar tepels bewegen. En ik zie door een paar tepels, dat het ook door geen tepels zijn, maar poppenogen. Bruine ogen bewegen heen en weer van links naar rechts, van links naar rechts en blijven bewegen in de rond. Beschaamd kijk ik verder, dan kijk ik naar het midden en zie ik een herhaling eigenlijk van het beeld. Ik zie daar alleen op het scherm de paden worden aangeboden.
En juist quand elle commence à nous parler, elle se fait tuer.
Ook daarop zie ik monsters. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed mezelf een houding te geven. Het bord wordt veel groter en ik
word
een
ambiance assez glauque. On reste dans ces ruines.
En ik loop weer terug.
C'est une ambiance assez glauque.
Ik loop weer terug, ik verdwijn, alles wordt donker. Een soort van verdwijnt.
C'est une ambiance assez glauque. On reste dans ces ruines.
Il faut ici parler d'un délire révélateur. C'est celui d'une descente dans la boue. Dans les basses zones du marécage. C'est l'enfoncement dans la terre humide qui met Lars Hertwig en relation avec la lumière. Les pieds s'enfoncent, l'un et puis l'autre. Il y aurait comme un ensevelissement du corps dans la boue. Mais là-bas se voit la lisière de la forêt. Le rivage, là-bas, invente un horizon. L'horizon toujours plus éloigné que crie l'œil qui se noie. Et l'on peut encore se tenir debout. La clarté, la vision même, se mêle à la confusion et l'on voit l'esprit s'écouler en silence. On voit que cet écoulement se fait hors de contrôle.
Ne pars pas. Reviens. Sans toi, je ne suis plus rien. Elle a disparu sous les pneus.
Ithac.
Sur une idée originale de Valérie Favre. Margaret Zenou dans le rôle de la médium. Cécile Arnaud dans le rôle de Phyllis. Avec les voix de Daniel Kunt, Revital Schloman, Jeanne-Marie Huette, Olivier Chomel, Pluck, Barbara Thum, David Moses, Jonas Lubitz, Charlotte Lichard, Lucie Girardin. Avec des textes de Ovid, José Luis Borges, James Joyce, Maurice Blanchot, Robert Grave, Allen Ginsberg, Giorgio Agamben, Sophocle, Jérôme Peignot, Claude Régis, Valérie Favre. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, Stéphane Desmond, Pierre Monteil, Olivia Branger. Mixage, Claire Levasseur. Attaché de production, Chouchane Jargaillan. Coordination, Irène Omelianenko. Merci à Madeleine Schwing, Claude Nior, Marie-Pierre Doissens et l'Observatoire de Paris. Un atelier de création radiophonique réalisé par Christine Robert et Valérie Favre. Une commande de France Culture et du Centre National des Arts Plastiques.
Écoutez Création On Air qui accueillait Parking pour la CR. Ce partenariat avec le CNAP doit beaucoup à un spécialiste de l'œuvre picturale de Valérie Favre, Marc Vaudet.
Valérie Favre, vous êtes peintre, vous êtes artiste. Est-ce que l'atelier de création radiophonique que nous venons d'écouter est en lien avec votre travail de peintre ?
Non, pas du tout. C'est un lien très très important avec mon travail en général, mais pas avec mon travail de peintre. Je suis quelqu'un qui se dissocie en plusieurs éléments. Il y a beaucoup d'écriture dans mon travail en général, et également aussi dans mes dessins et dans ma préparation de tableaux en tant que peintre. Mais l'écriture sert avant tout à raconter des histoires, et ça a été la chance, une occasion assez belle de pouvoir non pas seulement que ces écritures restent dans des carnets, mais de pouvoir les mettre en forme et ainsi pouvoir les mettre aussi en son.
Je vous ai posé cette question parce que, de mon point de vue, cet atelier de création radiophonique commence avec une forte intensité dramatique, propose des sons qui sont aussi des couleurs, utilise différentes figures de style. Donc c'est en cela que je voyais un lien avec votre travail de peinture.
On peut dire qu'il y a en effet dans les teintes et les couleurs peut-être un travail sonore qui pourrait se retrouver entre l'image, les images que je propose solitaires et le rapport que le spectateur avec ces images peintes, et de l'autre côté ces textes, ces mélanges de fragments de textes écrits et parfois aussi piqués de ci de là dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que ça fait office, peut-être, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez, par rapport aux références de l'histoire de l'art que j'utilise parfois dans mon travail de peintre, et que là aussi, dans cette traversée du parking, il y a des arrêts avec quelques auteurs que j'apprécie beaucoup.
Vous aviez déjà abordé le son, l'univers sonore, dans votre travail. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet aspect ?
Fin des années 80, j'ai réalisé une série de travaux en blanc, c'est-à-dire que je n'utilisais pas de couleur. Et j'ai invité la couleur dans mon travail avec des sons que je faisais, à l'époque c'était des cassettes enregistreurs, dans ma cuisine en bas à Paris, quoi. Et donc c'était une manière de lier les œuvres peintes en blanc, qui faisaient référence beaucoup au tissu et à la chair, à la matière. Et d'un autre côté, il y avait la texture sonore que je retravaillais en manipulant avec les micros, etc. Et également en écrivant des textes que je faisais lire, que je lisais moi-même. Et je faisais des bruits, bien sûr.
Donc là, on retrouve un peu ses premières expériences dans cet atelier de création radiophonique, mais cette fois-ci beaucoup plus travaillé, construit avec une réalisatrice, Christine Robert, de manière très forte et très intense. Comment s'est passé ce travail de collaboration, puisqu'il s'agit d'un travail de collaboration, pour le coup ?
Tout à fait. Alors, fort bien. Ça, c'était vraiment aussi l'aventure avec un grand A, parce que c'est également, surtout, une aventure humaine. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je faisais ces travaux sonores dans ma cuisine, j'étais complètement solitaire. Et donc, il a fallu aussi, et puis ça, c'est aussi France Culture, hein, j'avais le droit de travailler avec des comédiens, il y avait du bruitage. En fait, il y avait une palette hallucinante de possibilités. Et puis, en plus, c'était quand même une grande aventure humaine qui s'est offerte là pendant ces quelques jours de travail en collaboration.
Je vais revenir à vos peintures dans certaines de vos séries les plus récentes. On voit des orchestres, on voit des fanfares, on voit des comédiens. Est-ce que votre travail sur le son réalisé pour l'atelier de création radiophonique a aussi fait entendre quelques échos de ces peintures ?
Sans doute dans les fonds, dans le côté très obscur, parce que l'essentiel de cette scénerie se passe dans un parking et qui est censé quand même ne pas être très lumineux. Et la série des théâtres dont vous faites sans doute, vous évoquez sans doute la série, a quand même un background assez sombre. Enfin, il y a toujours la mort qui apparaît en funambule et tout ça. Enfin, il y a aussi des musiciens fantomatiques. Oui, peut-être, mais je sais pas. C'est assez difficile de mettre des liens parce que je travaille quand même beaucoup de choses en parallèle. La peinture en est une, mais le théâtre en est une autre. Et quelque part, il y a sans doute aussi beaucoup de relations dans mon travail propre aussi, entre la théâtralité et l'image que je propose.
La voix est aussi un son qui vous intéresse particulièrement. On entend des voix dans différentes langues, en néerlandais, en allemand, en français. Comment appréhendez-vous la voix et le sens que peut avoir le son de la voix ?
Pour cette pièce Perkins, c'était vraiment un petit peu biographique ou autobiographique. C'est en fait les langues qui m'entourent, c'est les langues que je pratique. C'est l'Europe aussi, en fait. C'est-à-dire que, du fait de mon parcours personnel, je suis un artiste saltimbanque en vadrouille. Et ce qui fait que, bon, j'ai longtemps habité Paris, mais maintenant j'habite depuis quand même plus de 20 ans à Berlin. Donc l'allemand, c'est une langue que je pratique. L'anglais, c'est une langue que je pratique de toute façon, étant donné les transhumances que j'effectue d'un coin à l'autre. Donc voilà, le néerlandais est une langue qui arrive lentement dans ma vie depuis quelques années.
J'ai précisé ma question. Est-ce que les différentes langues que l'on peut entendre dans cet atelier de création radiophonique font référence à différents sens, comme il y a par exemple chez vous dans l'émission l'araignée qui est une voix particulière, il y a la voyante qui est une autre voix, il y a votre voix qui lit des textes, il y a des voix inconnues qui racontent des rêves. Quel sens attribuez-vous à chaque son, ou comment est-ce que ces sons ou est-ce que ces sens se combinent pour donner un objet tout à fait mystérieux et extraordinaire?
C'est comme une palette là de nouveau. J'ai un peu piqué des voix, notamment, prenant par exemple les voix inconnues que, dans les rêves, c'est vraiment des voix que j'ai cherchées, des voix que j'ai entendues à Berlin et que j'ai pris dans mon escarcelle. Et pareil pour les voix allemandes et anglaises, c'est également, enfin je pense à, notamment dans le moment du village, c'est également une voix que j'avais très envie d'entendre. Et puis les prises de son que j'ai faites aussi moi-même dans cette série, enfin il y a quand même avec un micro, je me suis baladée dans différents endroits pour capter de la matière. Alors il y a eu un travail formidable fait avec des ingénieurs du son ici à Paris, mais j'ai aussi ramené des sons et qu'on a travaillé avec Christine Robert, voilà, comme de la matière, et le même principe que les voix, mais qui devait aussi être, pour les voix, c'est quand même, j'aurais pu pousser plus loin, peut-être faire de la poésie abstraite en quelque sorte, mais là j'ai tenu quand même à utiliser la voix dans le sens que ces voix portaient quand même des mots, et que le sens de ces mots faisait résonance peut-être aux crissements de pneus du parking, ou bien aux bâtonnets de la médium, ou au bruit de cette araignée qui échappe à tout le monde, je ne sais pas.
Dans votre émission, on entend le plus petit, l'araignée, mais vous faites aussi une évocation avec un astrophysicien du cosmos. Alors là aussi, c'est le plus petit qui rejoint le plus grand.
En quelque sorte, on est dans les trous de l'araignée qui disparaît dans ces parkings incroyablement profonds, et jusqu'aux trous noirs dans lesquels peut-être des univers disparaissent ou renaissent, on ne sait pas. Et je tenais absolument à avoir une discussion avec une personne qui soit dans l'état de poésie absolue, parce que je pense qu'il faut être philosophe ou mathématicien ou quelqu'un qui ait la capacité de faire comprendre ce que c'est qu'un mécanisme de l'univers qui touche l'inimaginable. Et ça, je tenais beaucoup à commencer à effleurer une rencontre pareille. Alors, j'espère qu'on arrive à commencer à se mettre à, comment dire, à se mettre à penser ce qui est peut-être pas possible de penser ou de s'imaginer. Et c'était justement cette rencontre avec cet astrophysicien qui est à la fois un scientifique, donc quelqu'un qui a les outils de traduction, et aussi cette immense poésie, une immense sensibilité. Voilà.
Est-ce qu'il y a du parking ou ville araignée au cosmos, qui est peut-être le parking des étoiles?
C'est le parking des étoiles.
Un monde qui est un monde métaphorique. Ouais, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est comment vous utilisez la métaphore à la fois sonore, on vient de l'évoquer, mais dans les figures que vous pouvez peindre parfois, qui vont du cafard à des petites lapines univers. Mmh. à d'autres figures qui sont des objets comme des voitures. Et je pense à la série qui était peinte un peu en hommage à Mulholland Drive.
Oui, en effet. Oui, c'était les autos dans la nuit. Une grande série d'automobiles peintes. Oui, et notamment dans l'émission, il y a un passage avec les anges. Et ça, actuellement, je travaille énormément autour du thème de l'ange dans mes peintures. Et alors là, bien sûr, il y a encore, bien entendu, des ponts. Et j'ai essayé justement de les rendre tactiles avec des sons très spécifiques qui coupe, c'est le cas de le dire, avec le cosmos de l'univers qui était présenté à l'observatoire. Et là, on tombe tout d'un coup dans un monde autre, qui est un monde construit par notre culture, en quelque sorte, terrienne, historique. Et on a inventé des noms d'anges parce qu'il fallait bien, organiser le monde, quoi, la société dans laquelle on est.
Il n'y a qu'une seule musique, si je ne me trompe pas, dans cet atelier de création radiophonique, non? Vous me dites qu'il y en a deux. Et comment sont arrivées ces musiques? Parce qu'on hésite entre certaines formes qui seraient des formes romantiques ou des formes très baroques, mais absolument contemporaines. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces musiques?
Écoutez, c'est vraiment... J'ai pensé éviter l'illustration à côté de textes qui sont extrêmement puissant, d'en rajouter une couche, entre guillemets. Donc je suis allée chercher des musiques bi-music, enfin, disons une musique beaucoup plus facile, easy-going, enfin, et des musiques qui sont dansantes, des entraînantes.
On a l'impression que vous ne voulez rien imposer en donnant beaucoup de choses. Est-ce que c'est une impression juste?
Absolument. C'est un peu comme des mi-peintures aussi. Je suis contente de mon travail de peintre. Quand une peinture a cette possibilité de faire en sorte que le voyageur et le regardeur, bien entendu, puissent voyager. Donc le regardeur devient voyageur.
Vous pouvez réécouter à vie ou podcaster un an cette proposition sonore. La semaine prochaine dans Création On Air, mercredi, Olga Fedorova nous mènera avec Clotilde Pivin à la poursuite de Nadja Tefi. Jeudi, nous ferons le mur avec Léa Racine et Gilles Mardy-Rossian. Et tout de suite, avec Philippe Garbi, ce sont les nuits de France Culture.